Ergotal.
Bonjour, bienvenue sur Ergot Radio à la zone de radio temporaire 2.0 pendant les portes ouvertes de l'ERG. Il est midi, ou presque. Et voilà, on va maintenant faire un petit débat sur la question de l'open source et plus spécifiquement de l'open source dans l'art. Donc pour ça, on a réuni une équipe de spécialistes. Donc à ma gauche, Lionel Mass, bonjour.
Bonjour.
Ludivine Loiseau.
Bonjour.
Et Antoine Jalgon.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être venu, c'est vraiment top. On va peut-être commencer tout simplement par faire un petit tour de table, parce que vous pouvez vous présenter, peut-être expliquer un peu ce que vous faites à l'ERG.
Ok, donc moi je suis Lionel Mass, je donne un cours d'écriture du code en deuxième bachelor et troisième bachelor, dans lequel on essaye d'aborder le code de manière à la fois technique mais aussi culturelle, pour résumer très rapidement ce qu'on essaye de faire dans notre cours. Voilà.
Donc moi c'est Ludivine Loiseau, Ludivine Loiseau. Je donne un cours de typographie en bac 1, cours d'atelier. Et j'ai donné aussi, je participe aussi, d'ailleurs Lionel également, au cours de culture numérique,
ah oui, c'est vrai,
qui est un cours avec une grande équipe en fait. On est une dizaine de professeurs pour les bac 1 également, qui, comme son nom l'indique, justement s'intéresse à la culture numérique et la culture que les outils peuvent apporter. Voilà.
Moi, j'interviens ce semestre en cours de typo pour les 3e, 4e, 5e années en dessin de caractère avec Renaud Huberlan.
D'accord, super, merci. On va peut-être commencer par une question de base aussi. Voilà, l'open source. Qu'est-ce que c'est l'open source? Qu'est-ce que ça veut dire être open source? Quelque chose qui est open source? Voilà, une vaste question, mais peut-être d'un point de vue concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, quoi?
On va peut-être pas, faire tout l'historique, enfin quoi qu'on pourrait parler de.
Bah rapidement, si c'est possible.
Antoine, t'es peut-être.
Je me sens d'attaque.
Ouais, t'es.
En fait, ça dépend. En fait, il y a différents termes qui peuvent résumer un peu les mêmes. Les mêmes licences qui sont des licences ouvertes. Il y a deux notions qu'on appelle open source ou logiciel libre. C'est pas exactement la même chose, c'est des choses qui sont textuellement à peu près les mêmes, sauf deux choses qui sont assez variées. Je fais partie d'open source publishing, mais au sein d'open source publishing, on parle de logiciel libre, enfin, on parle pas d'open source. La grande différence, c'est moi ce que je dis avec mes, enfin je dis ça avec mes mots, hein, mais c'est le logiciel, enfin ceux qui vont souvent présenter les choses en tant que open source va être plutôt un peu ce discours-là à dire que vous voyez, on peut faire aussi bien que des logiciels propriétaires, et que le logiciel libre va plutôt dire voilà, on peut faire autrement que des logiciels propriétaires. Ou en tout cas dans l'emploi, moi je préfère en tout cas dire logiciel libre que logiciel open source, ou licence libre plutôt que licence open source. Oui, il y a déjà dans le vocabulaire, il y a déjà un truc qui est très qui est très différent. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Logiciel libre.
Maintenant, en fait, c'est aussi que le logiciel libre, ça remonte historiquement un peu à la source de cette question de la publication des sources, parce qu'en fait, quand on parle d'open source, c'est le principe de publier ses sources, de les rendre accessibles. Donc, à la base, c'est beaucoup lié à la pratique du logiciel. Et historiquement, j'oublie le nom du personnage le plus fameux de Richard Stallman, qui a en fait établi les premières règles en fait de ce qu'est le logiciel libre. Et donc ça veut dire que travailler sous ce type de licence, puisqu'il y en a une série, on pourra en parler, il y a différents types de licences libres, ça implique de rendre accessibles en fait les sources du travail ou du projet ou de l'œuvre, s'il s'agit d'une œuvre, et de les publier et puis de les documenter idéalement, c'est-à-dire que pas seulement dire voilà le zip est là avec tous mes fichiers et mon bordel, mais c'est plutôt rendre les choses compréhensibles, explicites et réutilisables par d'autres. Ça, c'est vraiment la posture quoi, associée à ce genre de licence.
Ouais, je pense que c'est important. Par exemple, dans le cadre pour des étudiants qui apprennent, par exemple, la programmation, le fait, en fait, de publier comme ça des sources et surtout de les expliquer et de les publier par fragments et de réellement expliquer la démarche qu'il y a derrière et tout ça, ça permet en fait aux personnes qui étudient ou voilà à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école simplement de s'approprier en fait et d'apprendre de l'expérience des autres quoi. Voilà. Ça
D'accord. Je vais revenir par rapport à ce que tu disais, Antoine, que le logiciel libre ne cherche pas forcément à faire mieux qu'un logiciel propriétaire, mais à faire autrement. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie de faire autrement si ça marche bien, un logiciel propriétaire, par exemple ?
Pourquoi ? Je pense que c'est un peu dans le cadre de n'importe quelle recherche, enfin de n'importe quelle pratique, on essaye forcément de trouver des moyens de tâtonner, d'essayer d'explorer.
De ne pas être dépendant d'un seul programme, en fait. C'est aussi ça qui, en plus, est payant et qui implique, quand on est étudiant, d'avoir des cracks de prendre des habitudes, de pas être en possession en fait de ses propres outils, parce que c'est ça le principal problème, et de pas construire ses propres outils. C'est un peu ça qu'on tend dans tous les différents cours qui sont donnés, on pourra en reparler, on invite les étudiants en fait à prendre la main sur leurs propres outils, à construire leur kit qui va rendre leur pratique spécifique et inscrire leur pratique aussi dans une culture qui est la sienne, qui est la nôtre, ou qui n'est pas issue d'un programme développé aux États-Unis par une équipe fermée qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas contacter aussi. Enfin, c'est, il y a un truc qui ouvre plein de possibilités en fait avec le logiciel libre, parce qu'on ouvre le capot de plein de choses sans forcément induire d'être développeur ou de savoir pratiquer le code. S'approcher des logiciels libres, c'est aussi prendre contact avec une communauté de gens et il y a un truc très humain en fait qui est pas juste truc de geek. C'est un peu échanger des fichiers, plonger dans l'histoire des fichiers avec le domaine public. Enfin, c'est assez vaste en fait, un terrain qui est beaucoup plus vaste en fait, de terrain de jeu plus excitant.
Quand tu dis ça marche bien, il faut savoir ce qu'on entend exactement par ça, quoi.
J'ai mis un si, hein, quand même.
Oui,
si
oui,
ça
oui. Parce que en fait, ça marche bien. C'est quoi ? Alors c'est peut-être un programme qui fait qu'on oublie que en fait ce programme a de l'influence sur la production, ou qu'on considère du coup que le processus de création n'est pas important et que l'important en fait c'est le fichier final qui est produit. Et il y a une sorte de prise de conscience, en tout cas, qu'on essaye de générer, quoi, dans le fait, en fait, de justement travailler sur ce processus et donc de vraiment s'intéresser aux outils qu'on utilise pour créer quelque chose. Et donc voilà, c'est le contraire d'un logiciel qui se veut transparent, pour moi. Développer tous ces petits outils, savoir exactement à quoi ils servent, pouvoir faire une chaîne propre.
Il faut que tu dises en quoi transparent, dans le sens pas transparent dans le code, mais transparent plutôt où on l'oublie. Quoi,
non, voilà, c'est ça. Vraiment, dans InDesign peut être perçu, il est perçu par beaucoup de gens comme un logiciel qui n'a aucune influence sur la production, alors que forcément il implique des façons de fonctionner. Simplement, le fait de devoir d'abord définir le format du document dans lequel on travaille, le système de blocs, il y a énormément de choses qui sont impliquées par le logiciel, et en même temps c'est des choses qui qui sont pas qui sont un peu oubliés, quoi. Donc on a l'impression en fait que en apprenant InDesign, ben c'est comme si on apprenait n'importe quel logiciel, c'est pas vrai. Et donc la démarche de d'utiliser en tout cas des logiciels libres, de s'intéresser à qui l'a fait, la culture qu'il y a autour, comment ça s'est passé, tout ça, ça permet de, en fait, de prendre vraiment conscience que bah ouais, le logiciel, l'outil, il a une influence sur ce qu'on fait et il a une influence sur notre façon de travailler, quoi.
Et en fait, moi, j'aime bien le résumer de cette manière-là, c'est-à-dire que voir essentiellement, on utilise l'ordinateur pour produire des formes. Et c'est voir en fait cet objet comme un condensé d'humanité. C'est-à-dire qu'il soit bien ou mal, ça c'est pas forcément l'importance. Mais en tout cas, c'est fait d'une suite de conséquences, d'inventions, etc., de plein de monde, et qui se retrouve là face à nos mains. Et, en fait, c'est se dire bah, qu'est-ce qu'on va, comment en faire. Et moi, ce que j'aime bien me dire, c'est je dialogue avec ça. En fait, j'essaye de créer une communication entre l'objet technique qui est cet ordinateur et moi. Du coup, moi, j'agis sur cet objet technique en lui demandant des choses, et en contrepartie, lui aussi va agir sur moi parce qu'il va me répondre d'autres choses. En fait, c'est juste le logiciel libre fait juste que face à cet objet technique, on arrive à avoir des communications plus poussées que face à un logiciel propriétaire. C'est-à-dire comme dans toute communication, on ne sait pas ce qui va donner. Là, on est ici en train de parler, on ne sait pas forcément ce qu'il va avoir comme réponse, etc. En fait, avec notre objet technique, c'est ça. Et peut-être les logiciels sont peut-être instables pour la plupart, surtout en design graphique dans là où on est. Mais en tout cas, la communication est beaucoup plus, enfin, a des potentiels beaucoup plus larges qu'avec des logiciels propriétaires. Et même à partir de ce principe de communication, on peut se dire, vu que les sources sont libres et ouvertes, on peut faire communiquer ce logiciel avec ce programme-là, avec ce bout de code ici, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui est finalement... je crois que c'est Norbert Wiener qui disait ça, c'est-à-dire que les machines communiquent entre elles, mais aussi nous communiquons avec ces machines-là. Et je crois que c'est ça, moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans le libre. C'est pour pouvoir faire communiquer les choses entre elles et communiquer avec elles aussi.
Par rapport à se construire soi-même ses propres outils, est-ce que, du coup, utiliser un logiciel libre, ça implique, du coup, savoir coder? Par exemple, si on veut... Par exemple, le code source d'un logiciel est... C'est libre et accessible. Si on veut, par exemple, modifier un peu ses propres outils, changer un peu le code pour qu'il fasse quelque chose qu'on a envie qu'il fasse, ça implique de savoir le faire, par exemple. Est-ce que c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui ne saurait pas faire ça d'avoir une pratique du logiciel libre?
Ouais, par rapport au code, moi je suis pour l'abolition totale du métier de développeur et pour le considérer comme quelque chose qu'en fait qui n'est pas un métier, mais que tout le monde peut s'emparer à certains moments et l'apprendre de manière complètement différente que la façon dont c'est enseigné dans les écoles d'ingénieurs. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aborder le code d'un logiciel libre, par exemple, de manière complètement empirique, de récupérer des petits bouts, de jouer avec et d'apprendre par cette pratique-là. Est-ce que ça a fait de nous un développeur ou pas? Ben, en fait, c'est pas tellement la question. Je pense que c'est pas très important. C'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas un problème en fait de plonger dans le code. Que quand on apprend un langage de programmation ou quand on rentre à l'intérieur d'un code d'un programme, ce qu'on fait en gros, c'est on tourne autour de quelque chose qu'on comprend pas pendant très très longtemps, et puis après on trouve une petite porte d'entrée à l'intérieur du programme, et puis on en fait quelque chose, et puis on construit à partir de là. Mais on n'a pas besoin d'avoir un savoir, on n'a pas besoin d'avoir eu des cours d'algorithmique poussés pour pouvoir le faire, ce truc-là. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait, mais...
Si, moi j'aime bien quand tu parles de tourner autour, de copier-coller, parce qu'il peut y avoir plein effectivement de manières de pratiquer le code, et ça peut être presque de la peinture, enfin, ou de la scénographie, ou, enfin, dans le sens où, et c'est ça qui est assez beau quand on commence à regarder dans le code, de voir qu'il y a tellement différentes pratiques qui existent, différentes manières de l'écrire, que ça peut être de la poésie, enfin, qu'en fait ça c'est de l'écriture, quoi, et que il y a du code spaghetti, il y a du code super propre, il y a des maniaques, il y a des, comme dans n'importe quelle pratique en fait, et en effet à partir du moment où on est super curieux et qu'on a envie de faire un truc, on trouve les moyens de le faire, parce que c'est ça qui est bien avec ce genre d'outils, c'est qu'ils sont super documentés et que donc on peut apprendre à la volée, même un petit bout par là, un petit bout par là, sans forcément savoir tout de suite construire un programme. On trouve de l'excitation dans chaque petit apprentissage, et c'est ça qui est gratifiant en fait dans n'importe quelle pratique, c'est de trouver les moyens d'apprendre par soi-même. En fait, c'est ça qui est excitant, c'est ça qui est réjouissant dans l'apprentissage, et c'est bien d'apprendre toute sa vie. En fait, c'est aussi ça ce qu'il y a derrière la philosophie de ces outils-là, c'est une sorte d'invitation à un apprentissage continu, et c'est ça qui rend heureux, je crois. Enfin, c'est pas on apprend une fois à devenir un développeur quand on a 20 ans, et puis après on est développeur pour une boîte toute sa vie. Là, ça c'est triste, quoi.
Il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs notions aussi qui est très liée en fait à ça, c'est-à-dire que pour faire du logiciel libre, on n'a pas besoin d'être un développeur. Déjà, le logiciel libre renforce aussi les communautés du logiciel libre. Enfin, il y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et en fait, ça renforce aussi un truc où tout à l'heure, quand je disais que le but n'est pas de faire aussi bien que les logiciels propriétaires, mais de faire autrement, ça suppose aussi de se dire, bah voilà, on peut faire des choses qui sont peut-être instables, mal branlées, et c'est pas grave. En fait, justement, c'est un peu dans cette notion de hack. Le hack, c'est la transgression simple et comment intelligente en fait de une chose. Ça veut dire qu'on peut être un très très bon hacker logiciel libre, enfin, et utiliser des logiciels libres, mais ne pas forcément être quelqu'un de fort en code. Enfin, juste savoir un peu les opportunités, avoir une conscience technique en fait de ce qu'il y a autour de nous, et à partir de là de composer simplement en fait des choses. Du coup, je pense que non, il n'y a pas besoin d'être un programmeur.
D'accord, bah, très bien. Et simplement, j'aimerais savoir comment vous mettez en place toute cette philosophie, quoi, du coup, dans vos cours à l'école, parce que les élèves sont déjà un peu dans cette philosophie-là. Enfin, moi, je sais que mon premier contact avec l'open source, par exemple, c'était juste parce que c'était plus facile d'avoir GIMP que Photoshop, quoi. Et j'ai pas pensé plus que ça, quoi. Et puis après, en venant là, ça a changé. J'ai été exposé à une réflexion par rapport à ça. Mais comment vous mettez en place tout ça dans vos cours, du coup ?
Peut-être on peut faire. En fait, ça fait déjà quelques années qu'il y a du libre à l'école, parce que dès 2010 en fait il y a eu un premier cours, enfin, du coup je en profite pour faire une sorte d'historique, mais parce que ça il y a très peu de cours qui vraiment mettent ça comme intitulé en avant, c'est pas d'ailleurs du tout nécessaire, mais en 2010 en tout cas ça a commencé comme ça, avec un cours de soutien à l'option, quelque chose comme ça, et ça s'appelait SOS à l'époque, pour les bacs 1. Et ça s'appelait Libre Graphics, et c'était suite à une invitation de Joël Vermeau, d'Yvan Flass, enfin, qui c'est un cours en fait de 4 heures qui est donné une fois par semaine, et donc j'ai donné ce cours pendant 3 années, et ensuite ça s'est transformé. Et au début c'était simplement apprendre aux étudiants de bac 1 c'est quoi un pixel, c'est quoi un vecteur, c'est quoi, enfin, c'est quoi la matière numérique en fait, mais en la visitant avec des outils libres. Donc là c'était GIMP, c'était Inkscape, enfin des outils avec des interfaces, pas forcément tout de suite les mains dans des lignes de code, mais des choses assez simples où on bricolait avec avec cette matière. Et puis en fait, ce cours-là a continué d'exister. Maintenant, il est donné par Stéphanie Villefiou, qui aurait aussi pu rejoindre l'interview. C'est un cours qui s'appelle Écrire le design, et toujours pour les bacs 1. Puis maintenant, il y a le cours de culture numérique, qui est donné par une dizaine de professeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, dont Lionel, Stéphane Noël, Alexia De Vischer, Peter Westenberg, enfin, il y a beaucoup de monde qui participe, et c'est organisé en plusieurs morceaux, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de cours théoriques qui dure 2 heures, qui sont soutenus et qui mis en pratique en fait 2 fois dans l'année par une série de workshops, enfin, d'ateliers pratiques qui là sont des ateliers de 3 heures. Et c'est vraiment, en tout cas, la meilleure formule. C'est un cours qui est complètement en construction. C'est la 3e année qu'il est donné. Et chaque année, on change, les intervenants tournent. Et il y a une sorte de noyau dur comme ça de l'équipe. Mais c'est chaque année, on invite de nouvelles personnes extérieures à l'école aussi. Et ça nous semblait super important de trouver une manière d'articuler théorie et pratique. Parce qu'on est, enfin moi je suis beaucoup plus du côté de la pratique, mais ça nous semblait évident de nourrir un workshop pratique avec une série d'outils par d'abord un ensemble de référents théoriques, et donc ça s'est organisé cette année avec 2 thématiques. Il y a une première thématique qu'on a appelée Codec, autour vraiment des formats, la question de la transformation d'un format à un autre, du glitch, de du passage du texte au textile, du passage de l'image au son, du passage de la page web à la page print. Et ensuite, deuxième thématique, c'était le corps numérique. Et ça, moi, j'ai suivi à distance parce que j'étais en congé entre-temps, mais c'était plus autour de la question de l'humain dans le code, et du corps numérique, le corps, la 3D, en fait, comment on traduit, en fait, l'humain dans le numérique, enfin, comment l'humain ressort dans le numérique, assez largement défini. Donc ça, c'était la deuxième série de workshops s'est terminée il y a très peu de temps. Je crois qu'il y a eu un débriefing il n'y a pas longtemps. Ça, c'est deux cours qui sont donnés pour les bacs 1, mais il y a aussi un cours plus spécifique qui s'appelle Tool Bending, qui est donné par Stéphanie Villefiou, Peter Westenberg, Lionel.
Non.
Toi, t'es un autre cours.
Nicolas, non.
Nicolas Malvé, voilà.
Oui.
Et
ouais.
Mais
pas cette année.
Pas cette année, non. Nicolas. Mais donc, c'est des cours en... Ça, c'est bac 2 et 3
Bac
2
Bac 2, je pense.
Ouais. Super, moi, je...
Peut-être 3 aussi.
Bac 2
ouais, sûrement bac 3 aussi, oui.
Et puis, donc ça, c'est vraiment les cours qui ont plus clairement une sorte peut-être de descriptif qui affirme cet aspect... open source, mais en fait il y a plein d'autres cours dans l'école, donc le cours de Lionel d'art numérique, enfin de
écriture du code.
Écriture du code.
Ouais. Et c'est pas dans la section art numérique, hein. C'est ouvert à tous. Comme tous les cours en fait que tu cites. Hein. C'est des cours qui sont pas dans l'option art numérique. Quoi. Oui.
Alors là, c'est plus sur l'écriture du code, mais via des langages qui sont en fait libres d'accès, et donc aussi une bonne infusion quand même de pratiques libres.
Oui. Même dans le mode de fonctionnement du cours, c'est un cours assez neuf, donc c'est très expérimental comme forme, ça change chaque année, t'en sais quelque chose. Par exemple, cette année, pour les bacs 3, ce que j'ai essayé de faire, c'est déjà énormément discuté autour du numérique, et donc le premier cours, ça a été un tour de table, comme il y en a beaucoup à l'ERC pour l'instant, j'ai l'impression, mais un tour de table où on a défini ensemble des thèmes de recherche, quoi. Donc l'idée, c'était d'avoir des thématiques de recherche dont ce qu'on avait défini, c'était le code secret autour de la cryptographie ou les langages cachés. Le code pour le code, c'est est-ce qu'il y a un potentiel esthétique dans la programmation. Il y avait son et vision, entre le son et l'image. Et puis il y avait...
Archive et base de données.
Archive et base de données, merci. Bien. Archives et bases de données, et il y en a encore un.
Interaction physique.
Interaction physique, où là, ça a été plus un travail. En fait, ça s'est dirigé plus vers des livres augmentés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc, ces thèmes de recherche définis au tout premier cours sont toujours là. Et l'idée du premier quadri, en tout cas, c'était que chaque étudiant pouvait s'inscrire dans l'un ou l'autre des groupes. Pas toujours le même. Donc les étudiants n'étaient pas attachés forcément à un groupe de recherche, pouvaient passer de l'un à l'autre suivant les cours. Et donc forcément, ça implique de la méthode, de la documentation pour pouvoir se partager les recherches entre. Même si à la fin, forcément, les étudiants vont plus s'attacher à un groupe que d'autres. L'idée à la base, c'était quand même d'avoir des groupes de recherche qui arrivent à communiquer les uns avec les autres, avec des outils, du coup, avec un wiki. C'est la formule de cette année pour les troisièmes en tout cas. Et pour les deuxièmes, cette année en tout cas, c'est resté assez technique pendant la première partie de l'année.
Commencé quelque part. Hein.
Moi je me pose des questions par rapport à ça. C'est pas du tout la formule définitive, je pense. Donc on a vu de l'HTML, du CSS et du JavaScript parce que je pense que ces trois langages-là sont vraiment à la base de pas mal de choses et ça permet à partir de là de pouvoir partir dans plein de directions différentes. Donc ça semblait intéressant. Après, je pense que dans la manière de donner le cours, il y a encore du travail à faire de mon côté, parce que je pense que le côté frontal d'expliquer du code à des étudiants, ça ne marche pas tellement en fait. Donc je suis encore en train de chercher un petit peu la façon d'aborder les choses.
Voilà. Il y a aussi, dans le cours de l'atelier que mène Antoine en typographie, une ouverture par rapport aux outils qui est super importante aussi, parce que toi, tu as une pratique de certains outils, entre autres Metapost et Fontforge, mais la porte est aussi ouverte. Enfin, les étudiants sont libres de choisir.
Oui, c'est un peu de pas... c'est pas forcément forcer non plus au logiciel libre, mais en tout cas de montrer ces possibilités-là et voir ça, comment existe. C'est-à-dire que si ça commence à devenir quelque chose dans nos cours, enfin j'ai l'impression, enfin moi je suis juste intervenant, mais quand ça devient un peu moral d'utiliser un logiciel libre, ça veut dire que on force la prise de conscience de ça, et ça doit pas être de cette manière-là. Du coup, plutôt, enfin, il faut juste les laisser le choix, mais essayer de prendre conscience que les moyens employés sont importants. Et à se dire, si tu fais le choix d'aller dans un logiciel propriétaire, c'est peut-être bien, c'est peut-être ce qu'il te faut, mais il faut avoir conscience que ça va agir aussi sur ta manière de procéder, même ton futur designer typo ou designer graphique ou artiste, etc.
Non, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que moi, ma culture numérique, enfin la façon dont j'ai abordé l'ordinateur au début, c'était plus à travers ce qu'on appelait le Warez à l'époque, c'est-à-dire en gros les logiciels piratés, et avec une multitude de petits logiciels qu'on pouvait utiliser donc pour faire des choses. Donc pour faire du dessin, il y a toujours eu des centaines de logiciels à disposition. Et dans cette culture un peu subculture sur Internet, tous ces petits logiciels étaient utilisés dans tous les sens. Donc des espèces de petits logiciels 3D bizarres où on peut juste réaliser un visage avec des flammes derrière, des choses un peu bizarres comme ça. Moi, je trouve ça intéressant parce que, en fait, c'est des tout petits logiciels, comme les logiciels libres sont des tout petits logiciels, qui peuvent être ressuscités et utilisés. Donc ça, c'est des choses aussi à étudier. Et je suis assez d'accord aussi que la question du libre, effectivement, c'est important personnellement parfois de faire un choix par rapport à ça, par rapport à une pratique, mais c'est pas quelque chose qu'il faut forcer absolument, sinon ça deviendrait complètement idéologique, et je pense que c'est pas quelque chose à faire, en tout cas dans une école.
Ouais, c'est important d'encourager les étudiants à construire leur propre ensemble, quoi, de, et à être hybride si, enfin, tant que il y a besoin, quand il y a besoin d'être hybride, quoi, et même si on fait un choix de s'intéresser prioritairement, par exemple, aux outils libres, de rester curieux, quoi, de ce qui se fait de l'autre côté, enfin, ce qui se fait par ailleurs, quoi, parce qu'en fait, j'allais dire de l'autre côté, mais en fait, justement, il n'y a pas d'autre côté, en fait. C'est bien de ne pas opposer les deux, quoi, et de plus considérer ça comme un ensemble d'outils qui a différentes cultures. Différentes influences. Mais à propos de trucs pratiques mélangés, peut-être on pourrait écouter un morceau qu'on a.
Ouais, tout à fait.
Où là, les étudiants ont travaillé avec des outils libres et des pas libres. On pourrait écouter le Erreur 404. Et puis j'en parle un petit peu après.
Allez, on fait ça. Erreur 404. De retour sur Ergot Radio. On vient d'écouter Erreur 404. Ludivine, tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, donc en fait, c'est un morceau qui a été construit par une bande de 5 étudiants en bac 1 à l'occasion de l'atelier Beats and Sound dans le cadre du cours de culture numérique, où en fait, à partir d'un ensemble de scripts en processing, enfin de petits patchs. En fait, on a proposé aux étudiants de traduire des images en son, des textes en son, de jouer vraiment sur l'hybridation comme ça des formats. Et donc ici, c'est Antoine Crae, Félix Hervé, Cédric Kouam, Neil Mario et Fiona Omnes, je ne sais pas si je prononce bien les noms, qui sont partis en fait d'une série d'images glitchées, qui ont considéré cette série d'images glitchées qu'ils avaient réalisées pour un autre cours, par ailleurs, je crois, dans le cadre d'un atelier pluridisciplinaire. J'allais dire transdisciplinaire, c'est pas mal aussi. Et ils ont utilisé ces images glitchées comme des samples audio qu'ils ont importés dans Audacity. Et puis à partir de là, ils ont utilisé des filtres jouer sur ces sons pour les rendre plus audibles aussi, parce que quand on importe comme ça une image, c'est assez ça peut être même dangereux pour les oreilles. Et donc après, ils ont monté ça avec d'autres logiciels qui sont plus des logiciels privatifs. Donc c'est un peu ils ont fait toute une chaîne, et puis à la fin ils ont eu quand même un peu envie de rajouter des effets, puis et là c'est celui qui est un petit peu plus soft. Ils ont fait d'autres pistes avec des beats comme ça qui sont plus ils avaient envie un peu de que ça groove, mais c'est cet exemple de projet qui suit un processus un peu hybride et un gros travail une grosse équipe en tout cas, parce qu'ils sont 5, et c'était assez marrant de... On pourra écouter d'autres morceaux après.
Ouais, tout à fait. Du coup, par rapport à cette question de l'hybridation entre pratiques libres et pratiques propriétaires, qu'est-ce que ça leur a apporté en fait, par exemple, de faire les finitions avec j'imagine qu'ils ont utilisé un logiciel propriétaire pour les finitions, c'est ça?
Ouais, pour le montage en fait, et puis rajouter des beats, parce que je pense que c'est des étudiants qui sont déjà intéressés par le son à la base, et donc ils avaient une pratique avec ces autres programmes qui était peut-être plus traditionnelle, dans le sens où ils ajoutaient des beats, ils faisaient des samples en utilisant la bibliothèque de son qui est livrée avec tout programme de son. Mais là, ce qui les a intéressés, c'est que ils ont créé des samples eux-mêmes, en fait, plutôt que d'utiliser les trucs de la banque de son, et ces samples sont créés à partir d'images qu'ils ont glitchées aussi avec en ouvrant les images en fait dans des éditeurs de texte. Donc c'était aussi pour eux une pratique un peu nouvelle, quoi, de repenser qu'est-ce que c'est qu'un sample, et de se dire on peut nous-mêmes créer des samples et créer des samples à partir de visuels, en fait, pourquoi pas. Donc après ils ont retrouvé leur confort pour le montage final avec un outil qu'ils connaissaient, mais ici ça s'associait bien, enfin nous on les a pas du tout empêchés d'utiliser.
C'est marrant parce qu'il y a un étudiant en tool bending, donc le cours de Stéphanie en bac 1, c'est ça, je me trompe pas, bac 2,
ou alors 2. Écrire le code en bac 1
en tout cas, voilà,
un de ses cours,
un de ses cours qui a fait justement de la musique, mais uniquement avec Audacity, et donc pour le séquençage a dû coller les trucs plus ou moins précisément, et donc ça donne un beat plus ou moins carré, mais avec des imperfections super bizarres à certains moments, quoi. Et ça me fait penser à ce travail là où là pour le coup il a pas utilisé justement les logiciels propriétaires à la fin du processus. Peut-être qu'il les a plus utilisés au début en fait pour avoir les samples, tu vois, c'est rigolo.
En fait, il y a un mot qu'on utilise depuis tout à l'heure, c'est outil. Et on parle de logiciel comme d'outil, mais est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, qu'est-ce que c'est un outil pour quelqu'un qui sort dans le logiciel libre? Est-ce que son logiciel est son outil? Se construire ses propres outils, c'est construire son propre logiciel, se modifier? Est-ce qu'on peut peut-être discuter un peu autour du vocabulaire comme ça?
Je suis pas forcément contre ou pour le terme outil quand on parle de programmation ou de logiciel, mais je trouve que c'est toujours un peu un truc un peu vaseux en fait dans ce truc-là, ou un peu une mauvaise métaphore, un peu une mauvaise comparaison. C'est C'est, moi je parle de programme parce que c'est un programme et je sais voilà ce que c'est un programme, etc. Et parler d'outils directement, ça renvoie vraiment au marteau ou des choses comme ça. Et il y a une sorte de peut-être de juste, c'est pas bon ou enfin il n'y a pas de. Enfin, c'est juste et pas juste. Hein, et quand à la fois on se dit bah, pourquoi ne pas utiliser le vrai mot quoi. Ça me fait, c'est juste dire comme je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur un ordinateur, c'est-à-dire que c'est un objet qui est un condensé d'humanité, qui est un objet technique concrétisé. Où on n'est plus qu'un opérateur en fait d'un ordinateur, c'est-à-dire que à comparer à l'outil qui a besoin de notre force physique pour faire quelque chose, là on est juste là à appuyer sur des touches et après ça crée quelque chose. En tout cas, il y a une action et justement peut-être un là, je suis en roue libre. Mais il y a un truc dans l'outil où je me dis non, mais en fait, il ne faut pas parler tout, il faut pas parler d'outil, me dire bah voilà, c'est un programme et c'est un mot qui a sa définition. Il ne faut pas, comme. Quand on fait de l'expérimentation, on n'est pas obligé de parler de laboratoire aussi. Enfin,
tout dans. Ouais, moi je trouve ça intéressant de parler d'outils parce que je trouve que ça permet de sortir le logiciel de son univers numérique justement et de le considérer comme quelque chose qu'on peut utiliser avec des outils analogiques et de plus tellement faire la différence entre de l'analogique et du numérique dans certains circuits de production et de se dire bah en fait le numérique il fait partie de notre réalité physique comme le reste et que du coup bah oui il y a des outils, il y a des éléments en tout cas numériques ou analogiques qui peuvent rentrer à l'intérieur d'un processus de création qui ont chacun leur influence et la distinction. Alors effectivement on peut voir que il y a d'une part des outils qui reposent sur du texte qui fonctionnent avec de l'électricité mais je trouve ça intéressant en tout cas pour un créateur, pour quelqu'un qui fait quelque chose, de se dire qu'en fait de considérer les différents éléments qui peuvent rentrer dans la composition d'un travail quoi, comme des outils et donc de pouvoir les mélanger, de pouvoir arriver à des choses qui sont hybrides par ça quoi, de pas laisser le numérique du côté du numérique et l'analogique du côté de l'analogique, d'arriver à des choses qui sont un peu plus complexe parce que finalement le monde dans lequel on vit il est du physique numérique c'est la même chose, je veux dire c'est la même chose pour moi.
Mais du coup est-ce qu'on pourrait pas appeler ça aussi des appareils enfin plutôt que des outils
Oui, si tu veux.
Ouais, non mais en fait il y a une grande différence aussi c'est par exemple quand on prend le mot appareil, quand on prend l'appareil photo, c'est-à-dire vraiment un dialogue dans ce que le photographe va faire de son appareil qui est pas forcément dans un outil, enfin c'est pas vraiment la même relation aussi.
C'est la machine en fait.
Bah, en fait, c'est plutôt de la complexité en fait de la chose aussi. C'est l'appareil, on va avoir une communication avec lui, on ne sait pas vraiment ce qu'il va nous donner comme photo, vraiment. C'est-à-dire que si on prend, après, je ne m'y connais pas en photo, mais si on prend de l'argentique, on va faire une photo, on ne sait pas trop ce qu'il va avoir, et on va entretenir un dialogue entre un truc qui est complexe et ne pas savoir vraiment déterminer ça. Pourquoi pas utiliser le mot appareil pour dire un programme aussi.
Oui, mais je suis pas sûr que ce soit bon. C'est un peu bête, mais un crayon, ça fait la même chose. C'est-à-dire que quand tu dessines, tu t'apprends de ce que tu es en train de dessiner. Tu as un dialogue avec l'appareil crayon, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est pas parce que c'est une machine ou pas une machine, en tout cas, qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a un dialogue, pour moi, avec ce qu'on emploie. Oui.
Moi, je ne vais pas trancher sur la question. Je trouve que le mot appareil est pas mal aussi. En effet, en fait, je vois juste peut-être appareil. C'est un truc qui est peut-être plus complexe ou plus articulé, mais un appareil peut peut-être être fait de différents outils. Oui. En fait, pour mettre les boîtes dans les boîtes.
D'accord, on va peut-être aborder maintenant la question du copyright. C'est-à-dire que le logiciel libre, enfin l'open source, ça suppose aussi du coup que toutes ces données sont accessibles, n'ont pas de propriétaires, ou en tout cas elles sont accessibles pour tous. Donc en termes de création par exemple, qu'est-ce que ça implique qu'un créateur mette son travail à disposition de tout le monde?
Donc là ça touche à la question des licences. Il y a un très très bon cours qui est publié sur le site de Culture Numérique, a été donné par Stéphanie Villefiou à ce sujet. Mais pour aborder quelques licences, c'est important en fait pour les étudiants et pas pour que pour les étudiants, pour tout le monde, de savoir qu'est-ce que ça veut dire publier quelque chose. Et le rendre public, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de faire un choix par rapport au statut de cet objet public. Et c'est important de connaître en fait quelles sont les différentes licences qu'est-ce que c'est qu'un droit d'auteur, parce que c'est un truc qu'on a naturellement dès qu'on crée quelque chose. Donc le copyright, tout le monde l'a, on peut pas nous l'enlever sur une pièce qu'on produit soi-même. On a le droit d'auteur dessus. Après la licence avec laquelle on publie cet objet, ça c'est un choix qui a des différentes conséquences, quoi. Et donc il y a différents types de licences libres. Les plus connues sont les licences Creative Commons, parce qu'elles ont beaucoup de publicité, elles sont beaucoup utilisées, puis elles sont assez transversales, enfin Europe, États-Unis, enfin peut-être plus que d'autres licences qui sont très européennes ou françaises, comme la licence Art Libre. Et puis il y a aussi qu'est-ce qu'il y a comme autre licence en fait?
GPL.
La licence GPL, enfin il y a des licences qui sont plus liées à l'histoire du logiciel, donc licence GPL. J'ai pas d'autres. Sinon, il y a tout ce qui est dans le domaine public, donc en Europe, entre dans le domaine public les œuvres qui 70 ans après la mort de l'auteur. Aux États-Unis c'est 95, non, je crois,
je sais plus,
et au Canada 50, enfin il y a des différences comme ça.
En France il y a aussi une exception des années rajoutées si l'auteur est mort pour la France.
Voilà. Excellent.
Comme Antoine Saint-Exupéry par exemple.
Tout à fait. Et donc il y a en fait dans le domaine public aussi tout un ensemble de sources qui est un bon terreau en fait pour ce qui est création artistique. Et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où trouver des sortes de collections autour de ça. Il y a un site qui s'appelle Domain Public Review, The Public Domain Review, qui est assez bien fait, enfin qui collectionne comme ça justement des images, des textes, des sons qui sont dans le domaine public et qui proviennent de différentes sources comme la British Library, le Rijksmuseum, pardon. Il y a plein de sources en fait qui sont super bonnes à creuser. Et il y a aussi la journée du domaine public une fois par an, qui est souvent ici fêtée par l'association Constant. Enfin, ça peut être important aussi de parler des acteurs locaux ici à Bruxelles autour du libre, parce qu'en fait on est assez bien fourni. Et donc il y a pas mal d'associations, de collectifs qui travaillent cette question, et d'artistes aussi, parce qu'on a... Enfin, on a aussi déjà ici des artistes autour de la table, mais des personnes qui sont aussi intervenues dans le cours de culture numérique. Je pense à Françoise Ajega, Madeleine Actipi, qui a donné des cours ici. Lionel, qui a aussi une pratique clairement artistique en parallèle de du studio, la villa. Et donc ouais, par rapport au domaine public, je voulais dire autre chose, mais je me suis perdue dans le fil.
Et peut-être rappeler ce qui est peut-être logique pour nous, enfin, on n'a pas besoin de. Mais bon, c'est un truc où il faut rappeler aussi, c'est que les licences libres sont faites par quatre phrases en fait. Hein. C'est quatre phrases essentielles, c'est-à-dire l'accessibilité au programme ou à l'objet libre. Après, il y a le droit à étudier les sources de cet objet. Il y a le droit de modifier les sources de cet objet et le droit de redistribuer en fait la version de ce qu'on a fait. Et en fait, le logiciel libre, ça tient à ça en fait. Ça tient vraiment à ça. Après, il y a différentes licences. Limite, on peut s'en créer assez facilement, quoi, des licences. Il y a des licences, par exemple, en typographie qui sont très spécifiques, qui sont basées sur ces quatre phrases-là, mais qui développent légalement plus des textes autour de la typographie, d'autres plus sur le programme en tant que logiciel, etc. Du coup, on peut vraiment avoir... des licences très variées, mais qui se basent en tout cas sur ces quatre principes-là. Quoi.
D'accord. Est-ce qu'on écouterait encore notre petit morceau ?
Ok, donc je propose qu'on écoute Processing New Beat de Quentin Lamouroux et Sébastien Haim.
Allez.
Donc c'était pas un problème du mixeur ou de quoi que ce soit par rapport à la vitesse de la piste. En fait, c'est un projet qui est aussi issu du workshop Beats and Sounds où les étudiants sont intéressés à appliquer un filtre image en fait sur la piste de son. Ils ont le titre. Comment ça s'appelle, seconde flèche. C'est seconde flèche, le groupe est seconde split de flèche, le titre qui est en fait un titre assez fameux qui est à l'origine de du new beat, dans le sens où c'est le premier morceau qui avait été comme ça accéléré, enfin décéléré, et donc ils ont construit un filtre qui est un dégradé gris de gris du blanc au noir, un filtre manuel qui en fait avec processing vient accélérer, décélérer en fonction des niveaux de grid de ce gradient des parties de la piste quoi. Et donc pour les étudiants, enfin pour tout le monde en fait, on pourrait conseiller un peu pour clôturer une référence qui est en train de s'écrire, qui s'appelle Legal Advice for Artists, qui est un guide en fait qui est écrit par Eric Schreiber, un guide du copyright qui explore un peu les paradoxes de la propriété intellectuelle aujourd'hui, qui vient donner des conseils à la fois très pratiques et puis un avis critique sur ce qu'est le copyright aujourd'hui et puis les zones de frottement, les endroits où la loi est pas très claire ou où dépend un petit peu de l'humeur du juriste. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous pourrez trouver et qui est encore pas sorti, mais qui est sur le site d'Eric, donc ericschreiber.nl/legaladvice. Il y a un teaser avec des cartes postales où il pose devant des monuments publics. C'est assez cool.
D'accord, je vous remercie beaucoup tous les trois. C'était très intéressant.
Merci à vous.
Merci.
Et je vais juste conclure en disant que le stream, donc qui nous est fourni avec du matériel de Radio Panique, fonctionne entièrement en logiciel libre sur Linux.
Excellent.
Voilà. Et tout ça sera monté avec Audacity, bien sûr. Et dès que j'ai le temps, je mets tout ça sur archive.org aussi, les podcasts. Donc voilà, nous aussi on aime bien le libre Ergot Radio. Voilà Max, on va enchaîner avec un petit peu de musique et on se retrouve tout à l'heure sur Ergot Radio.